15h, merci de nous rejoindre pour l'après-midi pré-shabbatique. Tout de suite, les infos avec Ethanie Belaïch.
On ouvre ce journal sur le front nord où les alertes à la roquette sont incessantes depuis ce matin. On fait le point sur les attaques du Hezbollah contre le nord d'Israël avec vous, Pascal Sunshine.
Au moins 2 drones ont explosé sur le Golan, à Metula, une maison heureusement vide a été touchée de plein fouet par un missile anti-char. 3 roquettes Burkan de forte puissance ont explosé dans le secteur de Biranit sans déclencher d'alerte. Aucune de ces attaques n'a fait de blessés. Le Hezbollah a revendiqué ses tirs en riposte aux frappes de Tsahal la nuit dernière contre 4 de ses positions au sud Liban.
Notre correspondante en Israël, Pascal Zenshine, au 238e jour de guerre contre le Hamas par ailleurs, Tsahal se retire de Jabalia après 3 semaines d'opérations antiterroristes dans le nord de la bande de Gaza. Selon l'armée, durant cette deuxième offensive sur place, 12 kilomètres de tunnels ont été détruits et au moins 300 terroristes ont été éliminés. Par ailleurs, les corps de 7 otages assassinés par le Hamas le 7 octobre ont été récupérés. Dans le même temps, 3 membres du Hamas ont été tués lors d'une frappe aérienne à Nouserat, dans le centre de Gaza. Enfin, plus au sud, les forces israéliennes continuent d'opérer à Rafah, où des lance-roquettes, des entrées de tunnels et des armes ont été localisées en plein cœur de la ville ces dernières 24 heures. Du côté de la mer Rouge, les Houthis du Yémen affirment avoir lancé des missiles contre le porte-avions américain Eisenhower en début d'après-midi. Une attaque exécutée en réponse aux frappes américaines et britanniques nocturnes contre des bases Houthis au Yémen, selon le porte-parole militaire des rebelles soutenu par l'Iran. Une résolution de l'OMS sur la santé des Palestiniens est en suspens suite au vote d'un amendement israélien sur les otages. Le projet a été présenté mercredi à l'Organisation mondiale de la santé par une coalition de pays arabes. La résolution vise notamment la mise en place d'une conférence de donateurs pour répondre aux besoins sanitaires croissants à Gaza. Mais Israël, avant même que le texte ne soit soumis au vote, a exigé sa modification afin d'inclure un appel à la libération des otages toujours détenus par les terroristes, mais aussi une condamnation de la militarisation des hôpitaux gazaouis par le Hamas. La coalition arabe a alors tenté de retirer la résolution, chose contraire au règlement de l'OMS, puisqu'un amendement avait déjà été voté. La France bannit les entreprises israéliennes du salon Eurosatory de défense. Par décision des autorités gouvernementales, il n'y aura aucun stand de l'industrie de défense israélienne sur le salon, a affirmé à l'AFP l'organisateur de la manifestation, Cogess Events, en début d'après-midi sans plus de précision. 74 entreprises israéliennes devaient y participer du 17 au 21 juin. Un verdict historique aux États-Unis. L'ex-président Donald Trump a été reconnu coupable au pénal, coupable de 34 chefs d'accusation portés contre lui lors de son procès à New York. Cette peine, infligée pour des paiements dissimulés à une star de film X, sera prononcée mi-juillet, 4 jours avant la convention du Parti républicain qui doit investir le milliardaire comme candidat à la présidentielle du 5 novembre. Mais Donald Trump continue de clamer son innocence.
Nous n'avons rien fait de mal. Je suis un homme parfaitement innocent. Tout va bien, je me bats pour ce pays. Je me bats pour notre constitution. Tout notre pays est truqué actuellement. Tout ça est fait par l'administration Biden afin de blesser son opposant politique. Et je pense que c'est une honte. Et nous nous battrons jusqu'à la fin et nous gagnerons.
L'ancien président des États-Unis à la sortie de son procès hier, son avocat a fait savoir qu'il comptait faire appel. On termine ce journal avec du tennis et le 3e tour de Roland-Garros qui s'est ouvert en fin de matinée après un début de tournoi marqué par la pluie et des reports. Aujourd'hui, ce sont des figures qui vont s'affronter. Iga Swiatek et Coco Gauff dans le tableau féminin, Yannick Sinner et Carlos Alcaraz dans le masculin. L'américaine Gauff, 3e mondiale, s'est déjà qualifiée pour les 8e de finale face à l'Ukraine. Diana Yastremska en remportant 2-7, 6-2, 6-4 quand l'Italien numéro 2 mondial Sinner vient de débuter son match sur le court Philippe Châtrier face au Russe Pavel Kotov.
Merci Ethanit, prochain journal sur Radio J à 15h30, à suivre l'émission pré-shabbatique avec le Rav Mevorar Zerbib.
Le Forum Radio J. Retrouvez tous les dimanches à 14h10 le Forum Radio J, l'émission politique historique de Frédéric Aziza. Ce dimanche,
je recevrai Aurore Berger, la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations.
Le Forum Radio J de Frédéric Aziza, c'est tous les dimanches à 14h10 uniquement sur Radio J.
Radio J.
Existe-t-il une vérité religieuse ? Une conférence du professeur Maurice Ruben Ayoun, le 4 juin à 19h, mairie du 16e arrondissement, salle des mariages. Entrée libre.
Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8.
Radio J, 15h-16h30.
Steve Nadjar.
Merci d'être avec nous pour le début de notre après-midi pré-shabbatique. Nous sommes en direct et j'ai le plaisir de vous accompagner jusqu'à 16h30. Je vous donne d'abord, comme chaque semaine, les horaires de ce Shabbat. Shabbat Bechukotai, entrée à Paris ce soir avant 21h27, sortie demain à 22h50. Le programme qui vous attend jusqu'à 16h30, 16h05, le judaïsme au quotidien avec Rem Nissenbaum et Nelou Kohn, suivi du commentaire de la paracha avec la rabbinite Maria Chadré, 16h20, la chronique du président du consistoire de Paris et d'Île-de-France, Joël Mergui. Mais tout de suite, vous avez rendez-vous avec le Rav Mevorach Zerbi. Bonjour Rav Zerbi, et Shabbat Shalom.
Bonjour Steve, bonjour à toutes et à tous. En cette veille de Shabbat extraordinaire, Shabbat Bechukotai, Shabbat Chazak, Shabbat Mevarchim. Et oui, un Shabbat extraordinaire, puisque nous allons lire la 33e paracha de la Torah, la paracha Bechukotai, qui contient des brachot et des klalot, des bénédictions et des réprimandes. On va retenir surtout les brachot, et on va en parler. Mais c'est aussi donc le Shabbat où on va conclure le livre de Vayikra, puisque la paracha Bechukotai, c'est la dernière paracha du livre du Lévitique. Et puis on va bénir le mois de Sivan. Et puisque Rosh Chodesh sera vendredi prochain. Et sur le principe de bénédiction, de malédiction, sur cette paracha, on peut remarquer que quand on arrive vers la fin des livres, on a toujours des brachot, des bénédictions qui sont très présentes. C'est omniprésent. La fin du livre de Bereshit, le livre de la Genèse, se termine avec la paracha Vayikra, où il y a les bénédictions que Yaakov a adressées à tous ses enfants. Il les a tous rassemblés, chacun, une bénédiction de prophétie, bénédiction extraordinaire, c'est Parasha Vayikra. La conclusion du livre de l'Exode, c'est moins marquant, mais on sait que la fin de l'Exode parle de l'inauguration du Mishkan, du sanctuaire qui était érigé, et ce jour-là, le jour où le Mishkan a été érigé, c'était le premier jour où il y a eu la Birkat Kohanim, comme c'est marqué dans la Parasha Shemini. Alors, c'est un cheval sur plusieurs parachutes. C'est dans la Parasha Shemini qu'on nous dit qu'au moment de l'inauguration du Mishkan, il y a eu une bénédiction où Aaron a levé sa main, comprenez, ses mains, mais il est marqué sa main, et il a béni, et Rashi nous dit, il s'agit de la Birkat Kohanim. Birkat Kohanim qu'on retrouvera dans la paracha de Nassau. Mais cet événement est décrit dans sa base à la fin du livre de Shemot. Donc à la fin du livre de l'Exode, bénédiction par le Birkat Kohanim. Fin du livre de Vayikra, c'est cette paracha donc avec les bénédictions. La fin de Bamidbar, on trouve pas exactement la fin, mais sur la fin, les fameuses bénédictions de Bilaam, le prophète des nations, qui avait été engagé par Balak pour maudire les enfants d'Israël, mais qui a été obligé finalement de les bénir. Et puis, la conclusion de la Torah, c'est la paracha dans Vezot HaBeracha, dans le livre de Devarim, et dans le Deutéronome, et c'est là où c'est la bénédiction de Moshe à tout l'ensemble de chaque tribu, et c'est Vezot HaBeracha, c'est la bénédiction. Alors, bénédiction, en plus de ça, c'est Shabbat Mevarchim, on va bénir le mois de Sivan, et c'est pas anodin. Pourquoi c'est pas anodin? Parce que comme on a eu l'occasion de l'expliquer, on a une institution de Ezra qui est de lire les Torahot, les réprimandes qu'il y a dans Torah de Kohanim, c'est-à-dire dans le livre de Vayikra avant Shavuot, et les Torahot de Kitavo qui sont dans le livre de Devarim avant Rosh Hashanah, pour appliquer le principe de Tichlé Shana avec Kilotea, Tahel Shana ou Bilchotea, que ça termine l'année. Et son lot de difficultés, de souffrances, de choses mauvaises, et commence une année de bénédiction. Alors évidemment, pour Rosh Hashanah, on comprend, on lit Devarim avant, et alors la grande question, c'est mais Shavuot, c'est aussi un Rosh Hashanah, on est jugé sur les fruits des arbres, et comprenez, les fruits des arbres, on est jugé sur la Torah, sur tout le principe de la spiritualité, de notre lien avec l'étude, c'est à Shavuot. Et donc, on a un nouvel an aussi pour Shavuot. Mais remarquez que pour Rosh Hashanah, pour le mois de Tishri, il n'y a pas de bénédiction du mois avant. C'est un Rosh Hashanah qui est au début d'un mois et qui n'a pas de bénédiction. Alors, parce que c'est béni dans le ciel, parce qu'il y a de nombreuses raisons qui sont données, mais en tout cas, il n'y a pas de bénédiction du mois pour le mois de Tishri. Le mois de Sivan, le mois qui arrive, le mois qui est à la fête de Shavuot, qui est un jour, un nouvel an, comme le dit donc la Gemara d'après Ezra, un jour de jugement pour les fruits des arbres, eh bien là, il y a une bénédiction du mois, la bénédiction du mois de Sivan. Et donc il y a ici certainement un point qui n'est pas négligeable. Et quand on parle de bénédiction, je ne résiste pas au fait de partager avec vous une réflexion très remarquable. En effet, nous sommes dans la période du Homer. Nous sommes aujourd'hui le 38e jour du Homer. Shabbat, ce sera le 39e jour du Homer. 38, 39. Alors, ça nous fait passer du 38. Ça s'écrit Chet Lamed. Ça fait Chol. C'est le profane. C'est aujourd'hui, c'est Chol. Et demain, eh bien, ce sera Shabbat. Shabbat où il y a 39 travaux interdits le jour du Shabbat. 39, bon. Mais là où, dans le lien avec la bénédiction que je voulais relier, il y a des traditions qui veulent étudier pendant cette période, notamment deux traités qui ont 49 pages. 49 comme le nombre de jours du Homer, 49 jours. Oui, parce que l'Homer n'est pas terminé. Certes, pour de nombreuses communautés, notamment séfarades, mais certaines communautés ashkénazes, le deuil du Homer va jusqu'au 34e jour du Homer. Et donc on avait l'Agba Homer cette semaine, et donc on est sorti de cette période de deuil, d'où la programmation musicale qui est plus festive. On va pas rester, alors même si d'après le Rizal, on se coupe pas les cheveux jusqu'à Shavuot, ça veut pas dire qu'il y a vraiment une notion de deuil jusqu'à Shavuot. Toujours est-il que la notion de deuil, c'est 33, 34 jours, mais le compte du Homer, c'est bien 49. C'est depuis le lendemain du premier jour de Pessah jusqu'à la fête de Shavuot. Et alors 49, il y a deux traités dans le Talmud qui ont 49 d'apim, alors en fait ils en ont 48, mais on va jusqu'au daf même tête, c'est la page 49. Le premier, c'est Shavuot. Shavuot, pas Shavuot, mais Shavuot. Shavuot, ça veut dire les serments. Alors, c'est vrai, ça sonne comme la fête de Shavuot, la fête des semaines, puisqu'on compte 7 semaines pour arriver jusqu'à la fête de Shavuot. Mais le traité Shavuot n'aborde pas du tout cette question. Il parle des serments. Shavuot, c'est un serment, et donc c'est les engagements, les serments, Maseret Shavuot. Et puis, un autre traité qui a 49 pages, c'est le traité Sota. Le traité Sota, c'est le traité qui parle de la femme qui est soupçonnée d'adultère, un traité de Kedusha, de sainteté, et un traité où on serait très surpris, on va être très surpris des sujets qui sont abordés. Alors pourquoi Sota? Alors une explication veut nous donner que la femme Sota avait une offrande d'orge. Et l'offrande d'orge, on ne trouve que dans deux cas, la Sota et l'Homer. L'Homer, c'est une offrande d'orge qu'on offre au lendemain du premier jour de Pessah. Et donc, il y a une similitude entre Sota et Homer. 49, jusqu'au DAF 49 dans la Maseret Sota, c'est pas mal. Mais là où ça devient un peu plus animé, où je vous ai parlé de bénédiction et d'importance de la bénédiction, c'est que dans le DAF Lamed Tet, la page 39 du traité Sota, et si, alors, on sera le 39e jour du Homer pendant Shabbat, mais puisque tous les traités du Talmud commencent avec le Daf Bet, c'est-à-dire que ceux qui étudient une page de Talmud du traité Sota pendant toute cette période du Homer, ils sont aujourd'hui sur la page 39. Et cette page 39 nous parle de quoi? De la Birkat Kohanim, de la mitzvah, de la réalisation que les Kohanim font quand ils vont bénir. Et alors, je résiste pas au fait de vous faire partager un peu ce qu'il y a comme contenu dans cette page qui parle aussi des lois de Kriyata Torah, des lectures de la Torah. Mais on va se concentrer sur la bénédiction des Kohanim, où on pourrait dire qu'il y a 5 points qui sont développés dans cette page du Talmud, qui sont très intéressants. La première, c'est Rabbi Yehoshua ben Lévi, qui dit que tout Kohen qui ne sait pas laver les mains ne peut pas faire la Birkat Kohanim. C'est pour ça que, vous voyez les Kohanim, quand ils vont faire la Birkat Kohanim, pendant la Chazara, pendant la répétition de l'Amida, ils sortent. Alors que normalement, on doit écouter la répétition de l'Amida, être tout oui, on doit rien dire. Évidemment, ne pas parler, même pas étudier pendant la répétition de l'Amida, eh bien, c'est un moment très intense. Même idéalement, certains disent que pendant la répétition de l'Amida, il faut rester debout, pieds joints, et écouter, répondre, Baruch Hu, Shomo et Amen, comme si on faisait soi-même l'Amida. Donc c'est important. Et là, eh bien, tout Kohen qui se respecte, eh bien, sort de la synagogue, va se laver. Alors des fois, c'est assez rare qu'il y ait un évier dans la synagogue, c'est plutôt à l'extérieur. Mais enfin, va faire Netila, et c'est obligatoire. Comme il est marqué dans le psaume 134, c'est où Yedechem Kodesh, ou Baruch Hu et Hashem. Levez vos mains vers la sainteté et bénissez Dieu, donc une nécessité de la Netila du Kohen avant de faire la Birkat Kohanim. C'est important, cette notion de pureté pour faire la bénédiction. Après, il y a Rabbi Elazar ben Shamoua qui dit que le Kohen doit faire une bénédiction avant de faire la bénédiction. C'est intéressant. On bénit. Alors, c'est bénir les enfants d'Israël, c'est la mitzvah, c'est une mitzvah de la Birkat Kohanim. Et ben, comme toute mitzvah, on fait une bénédiction avant de la réaliser. Et c'est très intéressant parce que dans le psaume, on nous parle quelles sont les choses qui peuvent amener des fois à la longévité. Et une des choses qui est amenée, c'est de faire toujours la bénédiction avant de faire la Birkat Kohanim. Alors, attention, la bénédiction de la Birkat Kohanim ne se fait que dans le cadre de la tefila, de la prière. Un Kohen qui voudrait faire une bénédiction à quelqu'un, comme ça... en dehors du cadre de la prière, c'est pas la mitzvah d'Abirkat Kohanim. En aucun cas. Alors bon, c'est sympathique et tout le monde pourrait lire les versets de la Torah qui sont les versets d'Abirkat Kohanim, mais c'est pas la mitzvah d'Abirkat Kohanim. La mitzvah d'Abirkat Kohanim, elle est uniquement dans la répétition de l'Amida. Faut en avoir conscience. Et un Kohen qui voudrait faire une bénédiction à quelqu'un, il va dire, je vais faire la bénédiction sur la mitzvah, Asher Kiddishanu Mitzvotav, qu'on va décrire juste après, avant de faire Birkat Kohanim, mais c'est une bracha levatala et c'est pas bon. Et c'est en plus de ça déraciner une institution qui est comment est le mode opératoire d'un Birkat Kohanim. Alors, ils font une bénédiction, mais quelle bénédiction? Elle est très très intéressante, cette bénédiction, quand on fait une bénédiction avant de faire une mitzvah. Faire Asher Kiddishanu Bemitzvotav Vetzivanu, qui nous a sanctifié par ses commandements et qui nous a ordonné d'allumer les lumières de Shabbat, qui nous a ordonné de lire le Hallel, etc. Et, qui nous a sanctifié par ses commandements, qui nous a ordonné de la bénédiction avant la Birkat Kohanim que font les Kohanim, c'est Asher Kiddishanu Bikdushato Shel Aaron, qui nous a sanctifié, disent les Kohanim, dans la sainteté d'Aaron. C'est Aaron qui a donné le premier Kohen, le premier Kohen Gadol, le premier du clan Israël, qui va imprimer, qui va donc donner le sens de cette Kedusha. Vetzivanu levarech et amo Israël be'ava, et qui nous a ordonné de bénir son peuple Israël dans l'amour. Très intéressant, très important, ce be'ava dans l'amour. Et quand ils disent be'ava, les Kohanim, alors qu'ils sont face à l'Arche Sainte, quand ils disent be'ava, ils se retournent pour être face à face avec les enfants d'Israël qui vont bénir, parce que la bénédiction se fait face à face. Oui, face à face. Les Kohanim sont face à nous, et vous restez face aux Kohanim. Des fois, j'entends des personnes qui se tournent et qui se tournent devant les Kohanim, qui font une bénédiction des Kohanim. C'est une grossière erreur. On vous bénit, vous ne vous tournez pas. Alors, pourquoi ils le font? Parce que Ils ont peur de voir les mains des Kohanim. C'est vrai qu'on ne doit pas voir les mains des Kohanim quand il y a la birkat des Kohanim. Mais vous inquiétez pas, les Kohanim ont de toutes les façons les mains qui sont recouvertes avec leur talit. Et puis certains disent que toute la problématique de la présence de la Shrina sur les mains des Kohanim, c'est dans le Beth Amikdash. Dans le Beth Amikdash, il y avait des choses. Il faisait la birkat Kohanim avec le nom ineffable, celui, le fameux nom que le Kohen Gadol disait le jour de Kippour. C'était dans la birkat Kohanim, il le faisait. Après, bon, on annulait cette tradition, mais dans le Beth Amikdash, c'était spécial. Bon, maintenant, c'est cette présence de la Shrina qui est sur les mains des Kohanim, il faut éviter de la voir. De là est venue la tradition de prendre des personnes sous son talit, notamment les enfants, pour ne pas qu'ils soient amenés à regarder les mains des Kohanim. C'est ça. C'est quand on est sous le talit du père, du grand-père, du tonton, dans le rite, certains rites séfarades, c'est pas pour être béni par lui. On est béni par les Kohanim, et même, j'irais mieux, par Dieu, par le canal des Kohanim, mais c'est pas le papy ou le personne, donc c'est pas lui qui bénit, attention, c'est juste on va dire être sous la protection pour ne pas voir les mains des Kohanim. Mais dans tous les cas, il faut rester face à face avec les Kohanim. Eh oui, on est béni, donc il faut pas donner le dos au Kohanim. Les varer et amo Israël be'ava, de bénir les enfants d'Israël dans l'amour. Et puis après, il y a Rav Frisda qui nous dit que le Kohen, avant de faire la birkat Kohanim et après avoir fait la birkat Kohanim, il fait des prières à Dieu. Il demande que les choses se passent bien, que la présence de Dieu soit là, que la mitzvah soit bien réalisée. Et après, il dit, moi j'ai fait ce que je devais faire, à toi, c'est toi Hachem maintenant qui va t'occuper, je dirais, de la birkat Kohanim. Après, Rav Frisda donne un autre enseignement très intéressant, c'est qu'on ne peut pas commencer quelque chose tant que ce qui est avant n'est pas terminé. Ainsi, le Shaliach Tzibour finit la bénédiction donc de Modim, des remerciements à Tov Shimcha Olchana et Leodot. Et c'est quand il a terminé, c'est très important ça, quand le Shaliach Tzibour termine la bénédiction, qu'on répond Amen. On répond pas Amen avant qu'il ait terminé. C'est pour ça que faut faire attention, les ministres officiants qui ont tendance à rallonger un petit peu les fins de bénédiction, les Atov Shimcha Olchana et Leodot, c'est pas bon ça. Parce que le Kahal est amené à répondre Amen alors qu'il n'a pas fini de dire le mot Leodot. Or, le Amen, il doit venir dans le silence qui est après. Et attention, c'est dans ce silence, et si on enchaîne avec, dans la répétition de l'Amida, on enchaîne avec une autre bénédiction derrière, on peut plus répondre Amen. Donc, il faut que la bénédiction soit terminée, on répond Amen, et c'est seulement après que le Kahal a répondu Amen à la bénédiction du Kohen, à la bénédiction du ministre officiant, pardon, eh bien, à ce moment-là, le ministre officiant ou celui qui est préposé pour cela, c'est pas obligé que ce soit le ministre officiant, ça peut être une autre personne, mais en général c'est le ministre officiant, va inviter les Kohanim à faire la bénédiction. Kohanim, s'il y a plusieurs Kohanim, s'il n'y en a qu'un seul, alors comme c'est au pluriel, on dit rien. Et le Kohen commencera la bénédiction tout seul. Pourquoi il y a cette invitation? Parce qu'il y a marqué Amor Lahem. On doit inviter le Kohen à faire la bénédiction pour qu'il bénisse. Et c'est très intéressant, voilà, pour attirer la bénédiction, on invite le Kohen à faire. On dit Kohanim, et à ce moment-là, les Kohanim font la fameuse bénédiction avant la birkat Kohanim. Une fois qu'ils ont fini leur bénédiction, très important, on répond Amen. On répond Amen à la bénédiction des Kohanim. Les véritables Israël, alors faut faire attention, il faut que les Kohanim, dans certaines communautés, les Kohanim enchaînent avec Yivarechecha, mais il faut qu'ils laissent le temps au Kahal de répondre Amen à leur bracha. Sinon c'est dommage, on a perdu Amen et puis voilà, c'est pas top. Dans certaines communautés, même le premier mot doit être lancé par le Shaliach Tzibour qui Yivarechecha. Alors dans ce cas-là, il faut laisser le temps de répondre Amen à Bracha, les vrais amours Israël Be'ava. Alors après, il va les Recha, donc chaque chose doit être en son temps. On laisse le temps pour répondre Amen aux bénédictions et on n'empiète pas l'un sur l'autre, même si on est pressé, il faut faire attention. Et le cinquième enseignement qui est cette page de Talmud, très intéressant, ce sont les versets que l'on pourrait dire quand il y a la birkat Kohanim. Alors c'est pas les mêmes versets en fonction de la birkat Kohanim, si c'est Shacharit de Shabbat, si c'est Moussaf de Shabbat, si c'est le Mincha le jour de jeûne, ou si c'est la Ne'ila le jour de Kippour. Ce qu'on nous donne ici dans le Talmud n'est pas connu. Non, c'est pas connu. Ce que vous avez dans les livres, c'est des versets, en effet, mais qui correspondent pas à ce qu'on retrouve dans cette page de Talmud. Mais attention, là encore, quand on est béni, quand le Kohen dit la phrase, le mot, à ce moment-là, on lit pas des choses. On est en train d'être béni. Donc on écoute la bénédiction. Les versets que l'on retrouve dans de nombreux livres sur la Birkat Kohanim, d'abord, ils sont pas obligatoires à être lus. Si on les lit pas, c'est pas grave, au contraire. Et si on doit les lire, c'est seulement et uniquement quand les Kohanim chantent, ou quand le Sheler Tzibour, le ministre officiant, celui qui va inviter les Kohanim à faire bénédiction, va faire des vocalises suivant les communautés, surtout dans les communautés ashkénazes. Il y a sur certains mots certaines mélodies qui sont développées, et c'est dans ce moment-là qu'on peut faire qu'on peut lire les versets. Si il n'y a pas de ces mélodies, alors on peut pas lire les versets. Il faut éventuellement, on pourrait les lire après le Birkat Kohanim. C'est comme le psaume 67. C'est marqué dans les livres que c'est bien pendant la période du Homer. Oui, dans cette période, c'est pour ça que je vous en parle, période du Homer, de lire le psaume 67 pendant la Birkat Kohanim. Il y a des connexions extraordinaire entre la bénédiction des Kohanim et le psaume 67. Vous savez, c'est ce fameux psaume qu'on dit après la supputation du Homer, l'amnatser migil mizmorchir elokim yironin uibachin uirpadam vitanes etanusela. À part la première phrase, eh bien, dans ce verset, vous avez 49 mots, et dans le verset médian, yismiru viranin lomim kitish potamim mishor, il y a 49 lettres. 49 mots, 49 lettres. Ça veut dire que chaque mot et chaque lettre correspond à un jour du Homer, et c'est bon, le jour d'avoir la pensée par rapport au jour du mot et de la lettre de ce psaume qui a l'honneur pendant cette période. Et là, il est marqué dans le livre que pendant cette période du Homer, c'est bien de lire ce psaume, mais quand les Kohanim chantent ou quand le Sheler Tzibour chante, s'il chante pas et que c'est très rapide, eh ben on dira le Lamnatsiar après la Birkat Kohanim. Sinon, la bracha en elle-même, il faut l'écouter et répondre. Je vous propose de retrouver justement la Birkat Kohanim chantée par Uriel Elbilia. Oh.
Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+ et sur notre appli Radio J.
Radio J.
Il est 15h30, merci d'être avec nous. Votre après-midi pré-shabbatique se poursuit sur Radio J. À suivre le rappel des titres présentés par Etanis Belaïch.
Tous, l'armée israélienne annonce avoir achevé ses opérations à Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, après 3 semaines de combat. Elle y a notamment récupéré les corps de 7 otages tués le 7 octobre. Les Houthis du Yémen ont lancé plusieurs missiles contre le porte-avions américain Eisenhower en mer Rouge. Une réponse aux frappes américano-britanniques nocturnes contre des bases des rebelles soutenues par l'Iran, situées dans les provinces de Sana'a, Hodeida et Taïz. Il n'y aura pas de cessez-le-feu sans accord sur la libération des otages détenus par le Hamas. C'est ce qu'a promis un membre de l'équipe israélienne chargée des négociations sur le sujet auprès de Yediot Aharonot. L'Espagne s'oppose à toute restriction de l'activité de son consulat à Jérusalem. Le gouvernement espagnol a demandé à l'État hébreu ce matin de revenir sur sa décision d'y interdire les services proposés aux Palestiniens. Une décision qui avait été prise par le ministère israélien des Affaires étrangères en représailles à la reconnaissance par Madrid d'un État palestinien en début de semaine. Les industriels israéliens persona non grata au salon Eurosatory. Les portes de l'événement international de défense et de sécurité terrestre seront fermées aux 74 entreprises israéliennes qui devaient y participer du 17 au 21 juin et ce, sur décision des autorités françaises. L'ex-chef d'État américain Donald Trump a été reconnu coupable à son procès pénal à New York. Ce verdict historique n'empêchera pas aux républicains d'être candidats à la présidentielle du 5 novembre face au démocrate Joe Biden et ce, même en cas de condamnation à de la prison. Enfin, le président ukrainien Volodymyr Zelensky salue un pas en avant après le feu vert donné par les États-Unis pour que Kiev puisse utiliser les armes américaines contre des cibles sur le sol russe. La France et l'Allemagne ont emboîté le pas de l'administration Biden ce matin.
Bonjour à tous, c'est Léa Moscona.
Radio J.
Je vous retrouve tous les matins de 9h à 10h sur Radio J. Les experts ont la parole. Ils nous parlent bien-être, voyage, culture, gastronomie et art de vivre. Le tout dans la bonne humeur.
Le 9-10, Léa Moscona.
Radio J.
Vous êtes assujetti à l'impôt sur la fortune immobilière?
Victor Vince, directeur général du MDA France.
Un don vous permet de sauver des vies en Israël. Le Magen David Adom n'est pas financé par l'État d'Israël. Véhicules médicalisés, matériel médical, transfusion sanguine, grâce à votre générosité, des milliers de vies sont sauvées chaque année.
Faites de votre IFI un don en faveur de la vie. MDA France, 40 rue de Liège, Paris. MDA-France.org. MDA-France.org.
Vous écoutez
Radio J.
Radio J.
Radio J.
רוצה לומר תודה, כל כך מתרגש. תודה לחיים ועל מה שיש. תודה לכל בורא עולם, הכל ממך תמיד מושלם. תודה לחיים ומתן העולם. מתבונן תמיד על היופי המושלם שנותן לנו, נותן בורא עולם. ים של טבעים, צלילים ומנגינות, מה שנותר רק להודות. ורתחיל מהתחלה וגם אבי המשאלה. העולם הרמוניה אינסופית אף פעם לא לבד כל יום רואים ניסים ונפלאות מה שנותר רק להודות לא ארץ תתחיל מההתחלה
Yehuda Zetoun Toda, merci Hachem. Eh oui, remercier quelque chose de fondamental, remercier Dieu pour tout ce qu'il nous fait. Et le Shabbat, c'est cette clé de ce remerciement. Vous savez, bientôt ça va être Yom Tov, le jour de Yom Tov, jour de fête, et il n'y a pas les mêmes interdits que le jour de Shabbat. C'est, disons que le jour du Shabbat, c'est total, kol melacha, tout travaux vous ne ferez pas, alors que pour Yom Tov, c'est melachet avoda, seulement des travaux. Alors, ce qui sera autorisé, c'est melachet ochel nefesh, ce qui va être lié à certains travaux qui sont liés à la nourriture, à préparer à manger, mais pas tout. Attention, pas tout est autorisé à Yom Tov, parce que c'est lié à la nourriture. Hein. On ne peut pas cueillir une pomme, par exemple, le jour de Yom Tov. Les jours de Shabbat encore plus graves, évidemment. Mais alors, pourquoi c'est Melechet Ochel Nefesh ? À Yom Tov, il y a donc cette autorisation. On va dire parce qu'à Yom Tov, il n'y a que le lien avec la sortie d'Égypte qui est évoqué. On chôme par rapport à la sortie d'Égypte. Alors que par rapport au Shabbat, c'est aussi par rapport à la sortie d'Égypte, mais c'est avant tout par rapport à Maaseh Bereshit, à la création. Et la création est totale. C'est pour ça que c'est tous travaux qui sont interdits par rapport au Shabbat. Et alors, pour revenir à cette notion des travaux, parce que je résiste pas, ce Shabbat, on sera le 39e jour du Homer, Tal, c'est le nombre des travaux interdits le jour du Shabbat, et on est dans une période où, par rapport au respect du Shabbat, il y a une résonance particulière. Il y a une discussion d'après le Sifri Zouta, c'est arrivé le 21 Iyar, autrement dit il y a 3 jours. D'après la Gemara, c'était le 2e Shabbat qu'ils ont dû respecter. Dans Gemara Shabbat, page 87b, il y a en effet le 22 Sivan, donc comme hier, c'était le premier Shabbat quand les Israël étaient dans le désert. Ce premier Shabbat, et ils avaient reçu la manne, ils commençaient à recevoir la manne, et Dieu avait dit, il n'y aura pas de manne à l'extérieur, et il y en a qui sont sortis pour essayer de retrouver de la manne. Et ça a irrité Hachem, donc c'était le premier Shabbat. Alors c'est donc et ils voulaient ramasser de la manne. Alors on a dit que Datan et Aviram avaient caché la manne à l'extérieur de leur tente, et ils ont voulu les retrouver, mais les oiseaux les avaient picorés, donc ils n'ont pas pu les retrouver. Donc ça, c'était le premier Shabbat. Et le deuxième Shabbat, il y a eu une histoire du Mekoshesh Etzim. Alors, c'est quoi cette histoire du Mekoshesh Etzim ? Donc c'était le deuxième Shabbat, où, d'après le Sifri Zouta, c'était il y a 3 jours. Donc on est dans cette période. Et cette histoire de Mekoshesh Etzim est assez grave, puisque dans le traité Shabbat, page 118b, on dit, si les Bnei Israël avaient gardé 2 Shabbatot comme il faut, eh ben, ils auraient été sauvés. Et on arrive à la Géoula. Il suffit de 2 Shabbatot, qui sont respectés, et on est sauvés. Il n'y a pas eu. Le deuxième, eh bien, il y a eu cette histoire du Mekoshe Shetsim. Alors, je rentre pas dans la fameuse discussion. C'est qui d'abord, ce que Mekoshe Shetsim? Ah, bien, qui va dire que c'était Tselofrad, mais beaucoup vont dire, mais non, c'était pas lui. Il y a des discussions. Mais qu'est-ce qu'il a fait au bout? Finalement, qui est, traité Shabbat, page 96b. Rabbi Yehuda, au nom de Shmuel, nous dit, eh bien, il a transporté du bois dans le domaine public. C'est-à-dire, dans le désert, donc, qui était le domaine public de l'époque. Eh bien, il a transporté du bois d'un endroit à un autre, sur Arba Amot, sur 2 mètres. Et ça, c'est une transgression de Shabbat. Dans la transgression de Shabbat, par rapport à transporter, il y a 2 notions. Il y a une qui est de passer du domaine privé au domaine public. Autrement dit, comprenez un endroit qui est fermé, un endroit qui est ouvert. On pourrait dire comme ça, c'est pas forcément une notion d'appartenance. Bon, les lois des réchouillot, Shabbat, et des domaines du jour du Shabbat, on abordera ça une autre fois, mais c'est assez complexe. Mais aussi, quand on est domaine public, un endroit qui est ouvert, on ne peut pas transporter quoi que ce soit sur une distance de plus de 4 coudées, c'est-à-dire de 2 mètres. Dans une maison, on peut. Hein, dans une maison, vous pouvez avoir votre mouchoir dans la poche quand vous êtes à la maison et traverser toute la maison. C'est fermé, il n'y a pas de problème. Mais à l'extérieur, eh bien, on ne peut pas, c'est interdit. Et c'est ça ce que le Mekoshe Shetsim avait fait. Il avait transporté ce bois. Il y a une braïta qui dit que non, le Mekoshe Shetsim, il avait coupé du bois. Bon, alors coupé du bois, c'est-à-dire il avait récolté. C'était la melacha de Kotser. Mais Rav Acha Bar Yaakov nous dit quelque chose de très intéressant. Il dit non, vous savez, le travail qu'avait réalisé le Mekoshe Shetsim, il avait rassemblé du bois pour faire des tas, des fagots de bois. Et c'est la melacha, le travail de Me'amer. Me'amer, c'est mettre en gerbe. Omer, on parle souvent de la paire du Omer. Omer, à la base, c'est une gerbe. Comme on le voit dans le livre de Devarim, Veshacharta Omer Basadeh, tu vas oublier une gerbe, et ben tu la laisseras pour le pauvre. Donc, alors maintenant cette gerbe, elle a une certaine mesure, et c'est cette mesure qui va être offerte dans le Beth Amikdash, une mesure d'orge, et c'est ça l'offrande du Omer. Comprenez, du Omer, c'est-à-dire une mesure d'orge. Alors cette mesure, c'est d'ailleurs aussi la mesure de la manne. On a commencé à recevoir la manne ces jours-ci, et la mesure de manne que toute personne recevait, c'était Omer. Et c'est quoi l'Omer? C'est Asirit Efa, un dixième de Efa. Bon, mais ça, on a eu l'occasion d'en reparler. Mais je reviens à cette notion. L'Omer, donc, a plusieurs sens, donc de mesure, de gerbe, ou de travail interdit jour du Shabbat. Dans les 39 travaux interdits jour du Shabbat, l'un des travaux est Me'amer, mettre en gerbe. Alors mettre en gerbe, c'est en fait rassembler des végétaux sur leur lieu où ils poussent, et les mettre ensemble. Donc ça, c'est sur Me'amer. Intéressant, cette connexion entre Me'amer et le père du Omer. Bon, c'est vrai que d'après le Zohar, l'histoire du Mekoshe Shetsim, c'est une autre histoire. Parce qu'il a mélangé les arbres. Et c'est de quel arbre il s'agit? Bon, c'est dans la Kabbalah. On est après l'Akba Omer. On peut faire une petite incursion dans le Zohar qui nous dit que les Yitzim en question, c'était le Etz HaChaim et le Etz HaDaat. C'est l'arbre de la vie, qui est l'arbre de la Torah, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et donc, en fait, c'était l'arbre de la vie, c'est ce qui est complètement Kodesh. Et sa date, c'est la possibilité de faire la distinction entre le bien et le mal. Bon, et il y a un mélange qu'il fallait pas faire. Bon, mais la Kabbalah, ça nous dépasse, on va pas trop rentrer dans les détails. Ce que je voudrais remarquer, c'est que à travers les 39 travaux interdits jour du Shabbat, les Tal Melachot, comme ça on le dit, on pourrait dire Lat, mais on ne dit pas lamet, c'est 30, tête c'est 9, ça fait 39. Donc en général on met les dizaines avant, mais en général on parle toujours de tal melachot, parce que lat, ça peut se rapprocher d'un mot qui est lié à la malédiction. Laït en araméen, c'est maudire. Alors c'est pour ça qu'on dit tal. Et tal, c'est quoi? C'est la rosée. Et tal, c'est la rosée, mais quelle rosée? On parle de bracha, de bénédiction. Souvenez-vous, la bénédiction que Yitzhak adresse à Yaakov pensant que c'était Esav, c'est la bénédiction. Ou même Esav, il a conscience de l'importance de cette bénédiction. Et bien, cette bénédiction, c'était Viten lecha Elokim mital hashamaim, que Dieu te donne de la rosée du ciel. Alors, c'est cette rosée, et bien, cette bracha, c'est la bracha du Shabbat. La bracha du Shabbat de cette rosée, par le respect des 39 travaux originaux, avec leur ramification. On dit que chacun de ces travaux, il a 39 ramifications, et encore 39, il y a ce qu'on appelle les avot, les toldot, les pères et les dérivés. Bon, c'est tout un programme, mais qui est à la clé de la bénédiction. Et sur ce point des bénédictions que l'on a quand on fait pas de travaux, il y a une certaine conscience à avoir. Il y a une question qui se pose. Quelqu'un qui dormirait tout Shabbat. Donc il dort tout le Shabbat, donc il fait aucun travail. Est-ce que on peut considérer qu'il a été chômeur Shabbat? Mais il a eu aucune conscience d'avoir à faire quelque travail que ce soit, ou il faut qu'il se trouve dans la possibilité de faire des travaux et qu'il vienne pas les faire. L'histoire elle est pas simple, parce que quelqu'un on pourrait dire que finalement quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est malade et qui de toute façon ne peut pas bouger de son lit, qui peut pas faire de travaux. Alors Shabbat, pour lui, c'est un peu comme les autres jours. Alors on va prier pour que ceux qui sont malades puissent être en bonne santé pour pouvoir faire toutes sortes de travaux en semaine, qui va permettre de justifier le repos du Shabbat. Et le Shabbat, ce sera Shabbat l'Hachem. Il faut pas se dire, on va se reposer le Shabbat parce qu'on est fatigué de la semaine et ben voilà, on a besoin de se reposer. Non, c'est comme la Shemitah, l'année des Shabbatiques, c'est pas la jachère pour laisser la terre se reposer, pour qu'elle donne plus de... Alors c'est vrai qu'elle va donner plus de fruits, mais elle donne plus de fruits la sixième année, juste avant l'année de la Shemitah. Mais on doit le faire l'Hachem. Et le Shabbat, chaque Shabbat, même si on est bien content d'arriver au Shabbat pour pouvoir se reposer, on doit avoir une conscience qu'on le fait pour Hachem. Et mieux encore, qu'on va travailler dans la semaine. Comme il y a marqué, pendant 6 jours, tu feras ton travail. En faisant ce travail, on prépare la mitzvah du Shabbat qui arrive. C'est pour ça que dans la Torah, il n'y a pas marqué, tu dois respecter le Shabbat directement. On dit, tu vas travailler pendant 6 jours, pour que pendant les 6 jours de travail, tu vas prendre conscience que ça je fais parce que je peux le faire, parce que c'est pas Shabbat. Et quand arrivera Shabbat, eh bien, je vais avoir conscience de l'importance du Shabbat et de l'obligation que j'ai de m'abstenir de faire des choses. Il y avait un rave qui, sur chaque action, il disait, alors ça, c'est Shabbat. Est-ce qu'on pourrait? On peut pas le faire. Si, pourquoi on peut pas le faire? C'est un sourd par la Torah, un sourd d'obligation rabbinique. Et ça, c'est un point qui est remarquable.
חלקי, הסובב בעיר לסוח כדרכי מחלון ביתו של חכם נבון פיוטי שבת נשמעים בעון פיוטי שבת נשמעים בעון ורורי קרה לבין עם בת ועם צורכם כמו Shabbat, Neim Shimchem Velo Yushbat, Shevu Venochu Beyom Shabbat. Paniti ve'alachti be'morad ha'chov מסלסלו בנבונים וכל מסלסלו בנבונים אדון הכל מחיה כל נשומו אדון הכל מחיה כל נשומו Yasada hasdo, la vez de no di, ha homo, yasada hasdo.
j'aimerais partager avec vous maintenant quelques flashs. Premier flash, Imurkota et Teverou. Si vous allez, suivant mes lois, ici, le respect des mitzvot, ça fonctionne avec un cheminement. Imurkota et Teverou. C'est en adéquation avec la halakha. Les Baal et Moussar nous disent aussi, bien pour savoir trouver l'équilibre, il faut savoir avancer. Quand vous êtes sur un vélo, ben si vous faites du surplace, c'est pas évident de tenir l'équilibre. Ben il faut avancer. Il faut avancer dans la vie, et ça, c'est quelque chose de fondamental. Deuxième point que je voudrais partager, il est marqué dans cette paracha, Va'achaltem lachmechem lasova, vishavtem lavetar be'artzechem. Vous allez manger votre pain à satiété. Vous allez manger votre pain à satiété, Rachid nous dit, vous allez manger un peu, et ça va se bénir dans votre ventre. La bénédiction, c'est pas de manger beaucoup, c'est très, très diététique comme bénédiction, mais c'est l'aspect de, on mange peu, et ça se bénit dans le ventre. Mahal, la nourriture, eh bien, c'est les mêmes lettres que Malach, un ange, et c'est la valeur numérique du nom de Dieu, tel qu'il s'écrit, tel qu'il se prononce, 26 et 65, ça fait 91, et c'est la même valeur numérique que le mot Amen. Alors, une leçon sur les bénédictions à faire avant de manger et qui doivent être très présentes dans cette paracha qui parle de bénédiction. Enfin, il faut que je vous parle un peu des Pirkei Avot. Les Pirkei Avot, nous allons lire le cinquième chapitre des Pirkei Avot cette semaine, qui commence très anonyme. En effet, jusqu'à la 19e Mishnah, les 19 premières Mishnayot de ce chapitre n'ont pas d'auteur. Alors que le premier chapitre des Pirkei Avot, eh bien, il y avait 19 Mishnayot. Eh bien, et les noms des auteurs étaient c'était quelque chose de fondamental parce que ça nous donnait les caractéristiques de chaque auteur. Et puis on est passé de génération en génération. On nous a cité la Shalshelet HaKabbalah, la chaîne de la transmission de la tradition depuis Moshe Rabbeinu. Bon, il y a certaines parties qui sont à Lévite, mais ça va faire jusqu'au deuxième chapitre. On va retrouver Rabbi Yehuda Hanassi. Et donc il y a cette chaîne de la tradition avec des noms et tout le Pirkei Avot, eh bien, et des enseignements qui sont notés, qui nous donnent ces enseignements. Le cinquième chapitre des Pirkei Avot, c'est en fait le dernier chapitre de Pirkei Avot, parce qu'en fait, la semaine prochaine, il y aura un sixième, mais le sixième, on l'appelle Perek Kinyan Torah, c'est un chapitre qui a été rajouté au Pirkei Avot pour avoir une sixième semaine, pour arriver jusqu'à Shavuot, pour recevoir la Torah. Et ce sixième chapitre commence avec Rabbi Meir. C'est Rabbi Meir qui parle. Et très, très intéressant. Si on a 19 Mishnayot dans ce cinquième chapitre des Pirkei Avot où il n'y a pas d'auteur, eh bien, c'est un Mishnah, Rabbi Meir, on a un principe que quand on a une Mishnah qui n'a pas d'auteur, l'auteur, c'est en fait Rabbi Meir. En fait, c'est Rabbi Yehuda Hanassi, qui l'a écrit sur l'enseignement de son maître Rabbi Meir. Et très intéressant, le dénominateur commun qu'il va avoir dans ce début du cinquième chapitre, ça va être les chiffres. On va avoir une série de 8 chiffres de 10. Le monde a été créé en 10 paroles. 10 générations d'Adam jusqu'à Noir, 10 générations de Noir jusqu'à Abraham, 10 épreuves qu'Abraham a surmontées, 10 miracles que les enfants d'Israël ont eu en Égypte, 10 plaies d'Égypte, et 10 miracles qu'il y a eu au moment du passage à la mer Rouge. Alors il y a des choses qui sont connues, des choses qui sont beaucoup moins connues. Et 10 fois les enfants d'Israël qui ont hérité Hachem. Et 10 miracles qu'il y avait à nos pères dans le Beth Amikdash. Très intéressant, la connexion entre ces fameux 10, puisque c'est toujours avec le mot Ness. Hein, il y a eu 10 épreuves d'Abraham, Nissionot. C'est parce que l'épreuve permet à la fois de s'élever et de se dépasser, mais c'est aussi les 10 miracles Nissim à nos pères. Il y a les 10 miracles qui ont été faits aux enfants d'Israël quand ils ont passé la mer Rouge, et par 10 fois ils ont éprouvé Nissou. C'est encore le éprouver Hachem. Et puis il y a 10 miracles qu'il y avait pour nos pères dans le Beth Amikdash, 10 choses qui ont été créées après. Donc on parle veille de Shabbat, Ben Hashmashot, un anniversaire là de 10 choses qui ont été créées. Après les séries des 10, il y a la série des 7. Après la série des 4. Et puis après c'est Kol, tout celui qui, alors évidemment on n'a pas le temps de développer ce chapitre magnifique de ce cinquième chapitre des Pirkei Avot, mais je vous invite à l'étudier. On a des Shabbatot avec des après-midi particulièrement longue, c'est voilà, on est dans les Shabbatot longs, qui doit nous inviter à étudier. Im bechukotai telechu, ça veut dire quoi? Dit Rashi, j'ai dit aminim batorah, de se fatiguer dans l'étude de la Torah, pas seulement d'étudier comme ça en dilettante, non, de se fatiguer, de se travailler, de et ça doit être, ça demande un effort. Alors des fois l'effort c'est de se rendre à la synagogue pour aller écouter le cours, c'est déjà un effort. Des fois l'effort c'est de d'essayer de comprendre, l'effort c'est de lire le texte en hébreu et d'essayer de le comprendre, de traduire, et pas seulement se cantonner à lire les traductions, toujours. Non, c'est le VO, la version originale, c'est toujours le plus important. Alors, c'est présent. Et comme j'ai l'habitude de vous le dire, l'étude du Shabbat, c'est une étude qui est extraordinaire. Mille fois une étude de la semaine, nous dit le Ben Ishraï. Et c'est le sens, nous disent les textes, pourquoi on n'a pas le droit de travailler le Shabbat. C'est pour pouvoir se consacrer à l'étude de la Torah. Alors, l'étude de la Torah, qui est le véritable plus grand kiff du Shabbat, pour avoir cette dimension de Oneg, c'est ce que je vous souhaite. En souhaitant de bonnes nouvelles, de libération des otages, la tranquillité au sud, au nord et partout, en Eretz Israël et dans le monde entier, et qu'on entende Besurot Tovot, Yeshua de Nechamot, Shabbat Shalom, Git Shabbes, Shabbat Shalom, Omevorach.
De kudisho berichu, ano, ano, ano. Ya vedo de kudisho berichu, ano, ano, ano. Ya vedo de kudisho berichu, ano, ano, ano. Ya vedo de kudisho berichu, ano. Vedo di cudi soberichu, ano, ano, ano. Ya vedo di cudi soberichu. Ah, chasho ahuti, meyeis, meyeis Hashem. O ya chasho ahuti, meyeis Hashem. Ohoi so avakesh. O ya chasho ahuti.
Merci Rav Mevora Zarbi, Shabbat Shalom. Je rappelle à nos auditeurs et auditrices qu'on vous retrouve tous les matins à 6h35 pour le Dvar Torah, ainsi que les vendredis à 10h35 et 15h05.
Radio J.
Bonjour, c'est Lise Gutmann.
Le 10-11, Lise Gutmann.
Ravi de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement.